France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est l'une des conséquences dramatiques de la pandémie de Covid-19 à l'échelle de la planète. Les Nations Unies estiment aujourd'hui que le nombre de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire va sans doute augmenter de 40% l'année prochaine. Alors que les caisses de l'ONU ont bien du mal à se remplir ces derniers temps, l'organisation en appelle à la solidarité internationale. Les États doivent libérer des fonds pour éviter une autre catastrophe à Genève. C'est une correspondance de Jérémy Lanche.
235 millions de personnes dans 56 pays vont dépendre de l'aide humanitaire pour survivre. Si toutes faisaient partie d'un même pays, ce serait le cinquième plus peuplé au monde. La pandémie, mais aussi l'impact du réchauffement climatique, ont aggravé des situations déjà dramatiques, notamment au Yémen, au bord de la famine. Se pose désormais la question des fonds. L'ONU doit récolter 35 milliards de dollars pour ses programmes d'urgence l'an prochain. Marc Lowcock, le secrétaire général adjoint des Nations Unies.
5 milliards de dollars, d'un côté, ça peut paraître beaucoup, mais quand on y pense, c'est vraiment peu. Pendant la pandémie, les pays riches ont investi plus de 10 000 milliards de dollars dans leurs économies, et ils ont parfaitement le droit de le faire. Mais la somme nécessaire pour aider les 2 ou 3% des gens les plus pauvres est infime en comparaison.
Des besoins humanitaires qui explosent et des donateurs sursollicités à cause de la pandémie. L'équation est complexe pour l'ONU. La question du manque de fonds touche presque toutes ses agences, du Programme alimentaire mondial qui peine à financer ses livraisons jusqu'à l'OMS qui recherche toujours 3,5 milliards d'euros pour financer son dispositif international anti-Covid jusqu'à la fin de l'année.
Et Jérémy Lanche parlait à l'instant des campagnes, notamment de vaccination à venir. En Europe, la lutte contre la pandémie passe désormais par cette étape essentielle aux yeux de tous les gouvernements. Partout, les stratégies se mettent en place. Si en France, on préconise désormais officiellement de commencer les opérations par les personnes âgées qui vivent en EHPAD, première des 5 étapes recommandées hier par la Haute Autorité de Santé. En Allemagne, le gouvernement a déjà identifié tous les lieux nécessaires pour une vaccination à grande échelle. Louise Baudet.
Il y en aura sous des halls de foire, dans des salles de concert, des stades vélodromes, des patinoires et même dans l'ancien terminal C de l'aéroport berlinois de Tegel, fermé il y a tout juste un mois. En Allemagne, des centaines de lieux de vaccination sont prêts à ouvrir dans les semaines qui viennent. Le gouvernement fédéral et les régions se répartissent la tâche. Berlin s'occupera des doses de vaccins, les Länder des seringues, aiguilles, pansements et antiseptiques. Des milliers de centres sont également listés en Espagne où le Premier ministre Pedro Sanchez l'affirme, son pays est prêt. Le modèle, c'est la vaccination contre la grippe massive cet automne. Et l'objectif, c'est d'immuniser la moitié de la population contre le Covid d'ici au mieux le mois de mai et au pire la mi-juillet. Le Royaume-Uni, lui, a acheté 350 millions de doses de vaccins, principalement celui d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford. Et Londres entend vacciner dès fin janvier non seulement les seniors et les soignants, mais aussi les moins de 50 ans pour que tous les adultes volontaires le soient d'ici fin avril. Et c'est là la clé du succès, l'adhésion de la population. Si les Allemands sont très majoritairement prêts à se faire vacciner, seul le tiers des Italiens interrogés déclarent qu'ils le feront dès que possible.
Un mois, pas plus, pour trouver un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les négociateurs doivent s'entendre avant le 31 décembre minuit sur un dispositif censé superviser les relations économiques et commerciales post-Brexit. En cas d'échec, de no deal, les échanges seront régis par les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec à la clé d'importants droits de douane de part et d'autre. Les 7 péchés capitaux de la police, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait hier soir une série de propositions devant les députés de la Commission des lois. Il souhaite notamment renforcer l'encadrement des forces de l'ordre sur le terrain et reconnaît que la formation des fonctionnaires n'est pas à la hauteur des attentes de la population.
D'abord, il y a une erreur fondamentale que nous avons commise au ministère de l'Intérieur. C'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Raccourcir la formation initiale, c'est-à-dire la formation quand on embauche un policier, n'était pas une bonne mesure. J'ai parfois entendu l'opposition le dire, c'est une vérité. Parfois elle se heurte à des réalités, on veut à la fois plus de policiers rapidement, et effectivement si on veut des policiers rapidement, eh bien, il faut parfois raccourcir leur formation pour qu'ils soient plus rapidement sur la voie publique, mais ce n'était pas un bon calcul, c'était une erreur. Être policier tard le soir, dans des quartiers difficiles, dans des situations difficiles, ça demande une formation initiale plus importante.
Mais le ministre veut également généraliser l'utilisation des caméras piétons portées par les forces de l'ordre en intervention. Il n'exclut pas non plus une possible réforme de l'IGPN, la police des polices. Quelques belles éclaircies sur le sud-ouest de la France et du soleil sur la Provence. Partout ailleurs, le ciel sera bien maussade avec de la pluie et des chutes de neige, notamment sur le nord-est en basse altitude. Les températures iront cet après-midi de 5 à 13 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
C'était le journal d'Olivier Denré qui revient demain à 7h. L'information, elle est de retour à 13h sur France Musique. À demain, Olivier.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.